Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, car on ne s'arrête jamais, de l'économie expliquée par mon père.
On va s'arrêter en été, hein.
Oui, on va s'arrêter en été. Charles Gave. Alors aujourd'hui, j'annonce que Léonard est malade, souffrant, donc il m'incombe de faire les deux émissions que nous faisions normalement.
Ces jeunes n'ont aucune résistance.
Aucune résistance. De sorte que je l'ai un peu aménagé différemment, parce qu'il y avait un sujet dont je voulais vous parler, dont je voulais traiter depuis très longtemps. Parce que effectivement ici, on a tendance à parler d'économie, mais en définitive, ce dont on aimerait plus parler, c'est de libéralisme. Or, considérer le libéralisme que par son biais économique est un tort, et je pense aujourd'hui que si justement le libéralisme n'existe plus, est mal perçu, est mal appréhendé par bon nombre d'entre vous, c'est aussi parce qu'on n'a peut-être pas su le définir. Et donc, il y a au fond de cela une notion absolument fondamentale qui est la différence entre le droit et la morale. Et Charles avait commis, il y a pas mal d'années, un papier que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut des Libertés qui s'appelait « Abelard au secours, ils sont devenus fous », je crois, ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais donc que tu représentes pour les auditeurs cette différence fondamentale, d'abord présentée à Abelard, sans Héloïse ou avec, comme tu veux, et en quoi cette notion était-elle importante et le demeure ?
Alors, Abelard, c'était au tout début du mouvement universitaire en France, où l'Église commençait à créer des universités partout. Donc il n'y avait pas encore l'Université de Paris, mais il y avait déjà l'Université de Padoue, etc. Donc on doit parler, je ne sais pas, de 1150, 1180, donc c'est quand même, on commence à sortir des années sombres. Et c'est un homme qui est un très grand intellectuel, qui a un immense prestige. On passe là-dessus rapidement, mais un de ses amis chanoines lui donne la jeune Héloïse à éduquer, qui était une merveille d'intelligence, et il a fait beaucoup pour son éducation. Ce qui fait que le chanoine a été très fâché et qu'il lui a, il lui a coupé les couilles. Donc,
oui, c'était un peu définitif.
C'était un peu définitif.
Ma foi, fort douloureux.
Fort douloureux. Et ensuite, il y a eu des lettres entre Abelard et Loïs qui ont été un des classiques de la littérature, justement, qui sont très belles. Mais c'était un immense intellectuel. Il s'est beaucoup opposé. Je crois à l'époque, mais tout ça remonte assez loin, à Saint-Dominique, hein, qui était le créateur des Dominicains et un peu aussi à l'origine de l'Inquisition, mais pas l'Inquisition espagnole, de l'Inquisition contre les cathares. Bref, vous savez qu'à l'époque, les grands professeurs étaient des clercs, c'est-à-dire quasiment dans l'Église, donc c'était entre deux personnalités très fortes de l'Église. Et alors sa thèse essentielle, c'était que il fallait distinguer entre la morale et le péché, entre le crime et le péché. Et le crime, c'est quelque chose qui est défini par la loi. Par exemple, on peut dire que la première définition de ce que c'était un crime, c'était probablement les 10 commandements. Tu ne tueras point, bref, c'est une série de trucs qu'il ne faut pas faire. Comme le disaient les Romains, qui ont été à l'origine du droit quand même, beaucoup, il n'y a pas de crime sans définition du crime. Nulla crimen sine lege. Il n'y a pas de crime sans loi. Donc, si tu fais quelque chose que la morale générale réprouve, mais qui n'est pas prévu, on peut pas te condamner, quoi. Au nom de quoi on te condamnerait? Donc, le crime, c'est quelque chose que quelqu'un fait, qui est défini en termes juridiques, et qui s'applique à n'importe qui. Si tu tues, c'est un crime. C'est à peu près prévu, à peu près partout. La morale, c'est quelque chose qui est variable, selon les époques, selon les...
Oui, mais c'est justement là où c'est fluide, parce que prenons quelque chose comme l'homosexualité.
C'était un crime. C'était défini comme un crime. Mais il y avait une loi qui précisait que c'était un crime.
Voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça a été dépénalisé.
Oui.
pour devenir un élément qui relevait de la morale et qui aujourd'hui ne l'est même plus, de la morale.
C'est du choix individuel.
C'est du choix individuel.
Et toi, tu n'as pas le droit, toi, aujourd'hui, de faire peser un jugement moral sur quelqu'un qui serait homosexuel.
Voilà. Donc, on a même une inversion. Donc, c'est quand même intéressant.
C'est devenu neutre.
Quand tu regardes l'évolution du droit et de la morale, bon, bien sûr, je crois que... tuer son prochain, ça va rester un big five. Hein. Là, on est à peu près sûr. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est de voir effectivement, sinon, certaines choses à la limite de...
Mais surtout, il y a eu des choses qui, comme tu le définis très bien, qui étaient définies comme des crimes, souvent parce que le crime au départ a été défini en fonction de critères religieux. C'était les religions qui ont au départ défini les crimes. En fonction de la morale. Par exemple, dans la religion musulmane, l'homosexualité est toujours un crime.
Oui. D'ailleurs, je crois qu'en
punitive de mort,
d'ailleurs. Il y a des lapidations.
Il y a des lapidations. Oh non, je crois qu'ils balancent les gars l'immeuble le plus haut.
Ah oui, ça marche aussi.
Ça marche aussi. Et puis, au fur et à mesure que notre société s'est déchristianisée. Il y a toute une série de choses qui, dans le fond, relevaient de la morale chrétienne, dont on a dit, mais non, ça, c'est pas un crime, c'est le rêve des choix individuels. Et donc, on est passé, on a en quelque sorte réduit l'étendue du crime et augmenté l'espace de la morale individuelle.
Alors, justement, là, ça m'amène à un autre sujet que je voulais traiter, qui s'insère pour moi dans cette notion de droit et de morale, qui est la gestation pour autrui, la GPA. Alors, ma première question, c'est pour toi, en tant que libéral, quelle est ta vision, comment tu vois la chose, et qu'est-ce que tu trouves sur le marché des libéraux comme opposition intellectuelle à cette question ?
La gestation pour autrui, c'est... en quelque sorte, on loue la capacité reproductrice d'une femme... à un prix de marché, puisqu'il y a un marché pour ça, par exemple, en Californie. Et immédiatement, ça introduit un certain nombre de points très importants, parce que la loi peut décider que ça n'est pas un crime, mais tu rentres dans des domaines où là, moi, c'est un peu comme l'avortement, où il y a des tas de gens... qui considèrent que c'est un crime, même, c'est-à-dire qu'on arrive au moment où, comme le disait je ne sais plus qui, mais c'était un... Il y a des endroits où la loi doit... où le législateur doit aller avec des mains tremblantes. C'est-à-dire que...
C'est Montesquieu.
C'est vraiment... Alors peut-être là, il faut faire un petit retour en arrière. Ça va être une séance un peu curieuse parce qu'on va pas beaucoup parler d'économie. Hein.
Oui, mais parce qu'on va le faire dans la...
On le fera cet après-midi. Mais... Alors, ça nous amène peut-être à essayer de définir ce que c'est que la liberté.
Bon sujet, monsieur Gave, très bon sujet.
Très bon sujet.
Et français est en forme. Vous avez vu, c'est déguisé en banquier aujourd'hui. Banquier central.
Non, il serait plus sombre.
Banquier central, t'aurais un costume marron, une cravate verte.
Non.
Là, t'es plus banquier.
Banquier, ouais. Pas tout à fait de la City, mais enfin, banquier français, allez.
Banquier français.
Alors, la liberté, la meilleure définition de la liberté... À mon avis, hein, ça a été donné par Jean-Paul II dans « Centesimus Annus », qui était l'ouvrage de réflexion qu'il a fait sur la grande encyclique de Léon XIII, 100 ans plus tôt. Bon. Alors, Jean-Paul II dit quelque chose d'extraordinairement profond. Il dit « Qu'est-ce que c'est que la liberté ? » La liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Alors, j'ai toujours été fasciné par ça, parce que de pouvoir, c'est-à-dire, par exemple... si je suis homosexuel, je ne peux pas être homosexuel en Arabie Saoudite. Donc, je ne suis pas libre. Bon, premier point. Comme je n'étais pas libre, il fallait que je me cache il y a 2 siècles en France. Donc, le pouvoir, c'est de pouvoir exprimer mes préférences en tant qu'être humain, c'est absolument essentiel. Le vouloir, c'est-à-dire, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que je dois m'intéresser à la cité, me préoccuper du sort des autres ? Et ça, il faut que je le veuille, parce que, après tout, Moi, comme je le dis toujours, je vais avoir bientôt... Je vais rentrer dans ma 4e année d'ici un mois ou deux, 80e année, ce qui est quand même pas mal. Je pourrais jouer au golf, hein, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de volonté de vous parler, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je le veux, voilà, je le veux. Et le troisième, qui est peut-être aussi très important, c'est le devoir, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de corpus moral qui soit à l'extérieur de moi, auquel j'adhère, et qui me dit « tu dois faire ça ». C'est-à-dire que c'est un petit peu la loi naturelle. Que quelqu'un a mis dans moi une espèce de corpus de choses qui se font et qui ne se font pas.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans Antigone, que tu es face à Créon, et que ton corpus, donc, s'oppose...
Eh bien, tu meurs.
...à la loi. À la loi du pays.
À la loi du pays. Ben, à ce moment-là, si tu veux, tu dois t'opposer.
Parce que tu veux enterrer ton frère, c'est immoral.
C'est immoral, et c'est-à-dire que tu dois le faire... Tu ne peux pas le faire, tu dois...
Donc tu dois tomber sur ton épée.
À ce moment-là, c'est là où tu acceptes le...
Le fatum.
Le fatum, et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te demande d'être en opposition dans un régime politique avec cette espèce de corpus moral qui peut-être est inné, j'en sais rien, mais qu'on retrouve un peu partout, à ce moment-là, tu dois... Tu dois refuser, tu dois révolter. Donc, la liberté, c'est de pouvoir, de vouloir et de comprendre ce que tu dois faire. C'est les trois choses importantes. Et c'est là où ça devient très difficile quand tu poses la question sur la GPA, parce que toi, par exemple, tu te dis bon, mais louer le corps d'une femme, en faire un objet marchand, etc.
Nous avons, alors, quand même, en France, il y a je crois probablement sous la Révolution française, reconnu que le corps est en dehors de toute marchandisation et le corps est inaliénable. On ne peut pas le céder à autrui. Et donc, ça ne devait pas être à la Révolution, ça devait être bien après, puisque dans Victor Hugo, la pauvre Fantine vendait ses dents et ses cheveux, justement, c'est à chaque fois l'impression...
Oui, mais ce n'est pas parce que c'était interdit, c'était qu'il y avait une misère noire et que Fantine avait besoin de vendre.
De vendre, mais c'est quelque part, si tu veux, l'idée qu'on va avoir recours à son corps comme dernière manière de subsister est une atteinte à la dignité humaine, et ça a été reconnu comme tel dans notre droit, dans notre droit français.
Donc, si tu veux, ce que tu es en train de dire, c'est que cette espèce de corpus moral qui nous vient beaucoup du christianisme, mettons, a été incorporé dans le droit français il y a déjà très longtemps.
Voilà. Et que c'est à ce titre, parce qu'on ne vit pas sur la misère d'autrui, que la location d'utérus, quelque part, c'est utiliser des femmes dans le besoin, des femmes plus pauvres, comme on le fait de niveau mondial, et à cause de cela...
Je crois que 50% des fermes à bébés, en quelque sorte, l'horrible expression, ont été en Ukraine, justement.
Voilà.
Donc,
de la dignité humaine...
Donc, toi, tu es en train de dire que... Et ça se justifie. Tu es en train de dire que, dans le fond, cette espèce de chose qui était extérieure, qui est la dignité humaine, l'interdiction de marchandiser le corps, etc., tu l'as intégrée comme une loi naturelle, et donc, pour toi, la GPA doit être interdite. Enfin, doit être un crime.
Mais, si tu veux, c'est quelque chose, c'est une question qui a été posée complètement dans les années 90 pour le lancer de nain.
Oui.
Parce que les gens disaient, attendez, les libertariens disaient, attendez, moi, j'ai des nains, ils sont d'accord pour être lancés, moi, je suis d'accord pour les lancer, on a un contrat de rémunération, pourquoi je ne peux pas lancer des nains? Alors on leur a dit, vous ne pouvez pas lancer des nains parce que c'est une atteinte à la dignité morale de l'individu. Mmh. Alors les gens se disent, oui, mais enfin, normalement, le contrat synalagmatique entre les parties devrait primer. On leur dit, quelque part, non, notre vision de la société collective...
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le contrat entre deux parties volontaires n'est pas valable s'il touche à un certain nombre... Par exemple, je ne sais pas, mais tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Par exemple, en Chine, c'est peut-être ce qu'ils font, j'en sais rien en ce moment, il y a des rumeurs. Pour prendre ses organes.
Oui.
Même, tu vois. Donc, là, on est à la limite.
En fait, c'est des questions d'éthique.
En fait, mais c'est ça, l'éthique, c'est la frontière entre, dans le fond, cette espèce de loi qui nous est extérieure. Et ce qui est curieux, c'est que les libertariens et beaucoup de gauchistes considèrent que cette présence d'une loi extérieure n'existe, cette loi n'existe pas. Qu'il n'y a que le contrat entre nous deux. Et c'est là où, à mon avis, le libéral, le vrai, reconnaît qu'il y a quelque chose qui lui est supérieur, en fonction de quel il dirige sa vie. C'est pour ça que je dis que le libéralisme sans l'éthique, ça marche pas.
Mais par ailleurs, ne sommes-nous pas aussi des nains sur des épaules de géants ?
Exactement.
Si tu ne te retournes pas en arrière pour regarder les penseurs avant toi... Déjà, un, pour qui te prends-tu,
oui.
Et deux, forcément, tu vas au mieux réinventer la roue.
Et cette façon de dire que le contrat est supérieur à tout,
mais c'est une
tu n'as pas le droit de faire un contrat qui met l'autre, par exemple, en position d'esclavage.
Mais ça veut dire ériger le désir, et donc le plaisir, en vertu.
C'est-à-dire que ton plaisir ou ton désir devient l'élément...
Devient la seule et le seul élément moral. Et donc, on arrive dans une société du plaisir, où mon bon plaisir est tel que le contrat en est l'objet et ce plaisir doit tout remplacer.
Et c'est très embêtant parce que, par exemple, il y a des tas... Et à juste titre, il y a des tas de réflexions qui ont lieu en ce moment sur l'esclavage. Qui a existé dans toutes les sociétés, et on est la seule société à l'avoir supprimée, d'ailleurs. On nous en veut beaucoup, d'ailleurs, à cause de ça, parce que... Bon, si on accepte l'idée que l'esclavage est autorisé, un individu peut décider...
De servitude volontaire.
La servitude volontaire, librement de devenir esclave. Or, ça, c'est fondamentalement interdit, même par la Constitution, c'est au niveau constitutionnel. Donc... quelle est la différence entre la servitude volontaire, l'esclavage volontaire et la GPA ? Je ne sais pas.
Pour moi, je considère que c'est une servitude volontaire, la GPA.
Oui, c'est-à-dire que et c'est casser le lien entre la mère et son enfant. Enfin, bref. Donc, ce sont des questions...
Non, mais c'est simplement se servir. La personne qui se sert du ventre d'une femme se sert de la misère d'autrui. Et ça, c'est une atteinte à la dignité morale de cette personne. Et qu'elle soit consentante n'enlève rien. Il y a des choses pour lesquelles on ne devrait pas avoir à consentir, parce que, encore une fois, c'est en dehors du cadre moral.
Oui, et tu as tout à fait raison. Et cette histoire de la... tu peux dire que le contrat est non valable dès le départ, puisque l'une des deux parties est dans une position de faiblesse extrême.
Oui, c'est léonin.
C'est un contrat léonin. Donc, logiquement, il ne devrait même pas... Donc, par exemple, l'homosexuel qui désire avoir des enfants... s'il est homosexuel, quelque part, c'est qu'il est dans une situation naturelle où il ne doit pas avoir d'enfant. Donc, en bon écologiste, tu as envie de lui dire, mais mon cher ami, vous avez été fait pour ne pas avoir d'enfant.
Mais j'ai même, moi,
je dis pas que vous vous aimez pas, que vous avez.
Mais je ne vais même pas jusqu'à là. Je dis simplement que le recours à une tierce personne, qu'il le fait pour de l'argent, est juste pas possible. Alors, le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se retrouve dans une situation complètement ubuesque où, effectivement, les gens contournent notre système légal, vont dans des fermes à bébés, reviennent avec des enfants, et ensuite disent au Conseil d'État, vous comprenez, maintenant qu'on a ces enfants, il faut bien, donc...
Qu'ils soient
français, que vous... Ils soient... Mais je trouve ça quand même complètement anormal que... on permette en France que notre système juridique soit contourné et que, quelque part... Alors, évidemment, il y a des enfants qui se retrouvent au milieu, mais il y a un moment où, si on croit dans les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire la dignité morale de l'individu, il faut absolument avoir des décisions de justice et que là aussi que les cours internationales nous foutent bien la paix, qui marquent le pas en disant non, on ne le fait pas parce que vous avez contourné la loi et donc l'ensemble de
ou
de
alors,
cette opération
et alors,
est vicieux.
Il faut que ses parents décident d'aller dans un pays où c'est autorisé, par exemple.
Mais qu'ils aillent vivre en Ukraine, ça ne me pose pas de problème, enfants.
Soit qu'ils aillent vivre en Ukraine, soit qu'ils aillent vivre en Californie, mais puisque la France a décidé ça, et à ce moment-là, on rentre dans des problèmes de souveraineté.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne le droit à la France d'interdire ça alors que la Californie l'autorise? Et c'est là où, et comme on a, quelque part notre système juridique est en train de glisser vers si j'aime, si je le veux, j'y ai droit.
Oui, exactement.
C'est hors beaucoup de notre système juridique dans le passé, c'était de dominer mes pulsions pour avoir ce que j'aimais, parce qu'il y avait des choses que j'aimais qui étaient quand même pas bien nettes, quoi. Et l'étape suivante, ce sera, ben, si les femmes décident qu'après tout, elles trouvent que la polygamie, c'est très bien, au nom de quoi interdit-on la polygamie? C'est le même discours.
Après, si tu veux, si c'est la société française qu'on a envie d'avoir, toi et moi, on est pour un référendum d'initiative citoyenne, à la rigueur, votons. Si l'ensemble des Françaises ont envie d'une société polygame, et ainsi de suite, qui je suis
mais
pour...
Elle existe déjà, la société polygame. On a déjà des milliers de cas de polygamie en France, où un type vit avec 3, 4, 5 femmes. Il y en a 4 qui sont non mariées, donc il y a le droit à des subventions exceptionnelles. Donc on subventionne la polygamie.
Alors,
en France.
Si tu veux, moi, l'autre chose, c'est que dans le droit, pour moi, le rôle du droit est de protéger le plus faible.
Oui.
Dans une situation de polygamie, je n'ai pas le sentiment, la sensation qu'une partie serait plus faible que l'autre, et ainsi de suite. Ce que j'ai dans la GPA, puisque là, tu vas avoir deux personnes faibles, tu vas avoir la mère qui est dans une situation précaire financière, et ce bébé qui va naître de ce contrat, qui va se retrouver lui aussi dans une situation de précarité innée, enfin induite, puisqu'il ne connaîtra pas sa mère. Et
il se passe des phénomènes très graves. C'est comme il y a eu le Covid et puis ensuite la guerre en Ukraine. Ces fermes à bébés avaient envoyé toute une série d'enfants parce qu'ils allaient être adoptés sans difficulté, mais ils ne l'ont pas été. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des enfants d'un an, deux ans, qui sont là et on ne sait pas quoi foutre. C'est abominable. Puisque les gars n'ont pas pu venir pour les adopter.
Sans compter, si tu regardes en pratique, la brutalité des contrats, surtout en Californie, envers les mères porteuses, qui leur demandent de ne pas avoir de rapport pendant toute la durée, ce qu'elles doivent manger à leur prêt, ce qu'elles doivent... Enfin, c'est véritablement de l'esclavage pendant 9 mois. Je ne trouve pas ça normal qu'on se permette, soi-disant dans une société que l'on qualifie de progressiste, de mettre en esclavage des femmes, même volontairement, enfin, même si elles le font volontairement pour de l'argent.
C'est pas parce que l'esclavage devient volontaire...
Qu'il en deviendrait moral.
Ou même,
et qu'on serait une société...
Ou même légale.
Qui devrait regarder ça avec bienveillance. Je ne crois pas.
Moi non plus. Alors là, on se heurte à quelque chose de terrible. C'est que dès qu'on se heurte aux pulsions de désir, si on dit non, on est considéré comme un vieux con.
Oui, bien sûr.
Et à ce moment-là, il y a une espèce de pression qui s'exerce contre vous en disant ce type est là pour et contre il est homophobe. Et là encore une fois c'est comme l'euthanasie. J'ai connu dans ma vie pas mal de docteurs qui, quand l'un de leurs malades était vraiment dans un état épouvantable, souffrait énormément, bon, avait un geste de miséricorde en quelque sorte et permettait à cette personne de mourir. Mais c'était une décision individuelle et qui n'était pas législative. Il n'y avait pas de loi. C'était simplement... C'était lui, en tant que médecin, dans son âme et conscience, mais il ne le disait pas, d'ailleurs. J'ai vu 2 ou 3 cas comme ça. Mais à partir du moment où on va légiférer sur l'euthanasie, où on va dire... vous avez le droit de tuer. D'abord, c'est complètement antinomique avec le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'on demande aux médecins de faire quelque chose. Leur promesse, c'est de maintenir la vie envers et contre tout. Bon. Et ça pose des problèmes essentiels, parce que dans le fond, il y a des tas de gens qui trouvent que les vieux mettent longtemps à mourir quand on attend l'héritage. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelques cas aussi dans ma vie qui étaient à la limite d'être drôles, tellement l'arrière-grand-père richissime mettait un temps fou à mourir et tout le monde était désespéré derrière, parce que...
Et on connaît aussi la grand-mère décède et 2 heures après, ils sont dans le château en train de faire l'inventaire de, mais littéralement, c'est-à-dire, oui. C'est au premier qui arrivera pour prendre le tapis du salon.
C'est exactement.
Tu vois à qui je pense.
Absolument, tout à fait. J'en ai vu aussi tout un tas comme ça. Et donc, ben, y a beaucoup de cas qui se passent comme ça. Et de là à dire, ben écoute. Maman va pas très bien, il serait peut-être temps, elle est toute seule dans son château, là, on va peut-être...
Moi, ce dont j'ai le plus peur, c'est, pardon, mais des caractères comme ma tante Denise, que j'embrasse, qui a toujours l'impression de déranger, et je me dis, mais cette pauvre Denise, dans cette situation, elle va se dire, ah, je voudrais pas rester trop longtemps, je vais vous embarrasser, non, mais débranchez-moi, parce que je vais déranger, et il y a plein de gens qui sont comme ça, qui disent, je veux pas être un poids, surtout, si je dérange, tu me le dis, je pars tout de suite, et en fait, on va pousser nos personnes âgées à se déclarer plus vite mal en point ou de toute façon...
Ou à demander, dites les gars...
Bon, après, on a un autre problème, c'est, on l'a vu avec Orpea, c'est le traitement... les traitements des vieux, pardon, dans notre société...
Est devenu abominable.
Enfin, c'est quoi cette société où on coupe nos vieux... Alors, j'ai bien conscience qu'on vit dans des petits appartements en ville, j'ai bien conscience de tout ça et ainsi de suite. Avec le Covid, ça a été d'une brutalité en plus...
On a empêché les petits vieux, ils sont morts, non pas du Covid,
ils sont morts de tristesse.
Ils sont morts de chagrin parce que plus personne ne pouvait venir les voir.
Et alors... Ils se retrouvent dans des mouroirs avec rien à bouffer.
Idiot, par exemple, on leur donne des plateaux où il faut ouvrir, et la plupart n'ont plus les mains très fortes, donc ils ne réussissent pas à ouvrir l'espèce de truc à double pas de vis pour éviter que les enfants
les ouvrent.
Déjà que
moi, je prends 10 minutes, là. C'est-à-dire le truc où il faut pousser et tourner
en même temps. Oui, pour empêcher que les enfants le fassent. Et donc, on me raconte que dans des tas de cliniques ou d'hôpitaux, les petits vieux ne bouffent rien. Ils sont morts de faim, hein. Parce qu'ils ne réussissent pas à ouvrir les bitonios.
Non, et puis tu n'as pas le droit de venir avec des animaux de compagnie la plupart du temps, donc tu es obligé de te laisser tes chats ou tes chiens, ou le DAF est là, du reste.
Il est d'ailleurs très ému à cette idée.
Je pense que...
Donc, c'est encore une fois... Alors, donc, revenons à Abélard, parce que c'est un sujet intéressant. Donc, ce qu'avait dit Abélard, c'est que l'État, son rôle, c'est de punir le crime. Et ça me paraît parfaitement justifié. Donc, on retrouve, dans le fond... bien avant Max Weber, mais les fonctions, l'État, ça, le monopole de la violence légale. Quoi. Bon, il a le droit de vous... Si vous avez commis un crime, il a le droit de s'occuper de vous. La morale, il n'est pas possible qu'il y ait une morale d'État. Il n'est pas possible qu'il y ait une morale d'État, parce que, ben, comme on vient d'en discuter là pendant 10 minutes... Ben, ta morale n'est peut-être pas la mienne, n'est peut-être pas celle des gens dans la rue, etc. Donc, sur des sujets comme ça, l'État ne peut pas légiférer. Mais ce qui se passe, c'est que depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans, il y a une espèce de morale, moraline, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Oui, la moraline.
La moraline, une espèce de machin qui considère, par exemple... Je vais prendre un exemple idiot, le réchauffement atmosphérique. Allez, tiens, c'est un truc. La science, c'est de considérer une hypothèse. Et une fois que tu considères cette hypothèse, tu la considères bien, tu l'étudies et tu la rejettes ou tu l'acceptes. Mais tu suis un processus logique. Donc, hypothèse, réchauffement atmosphérique, qui entraîne toute une série d'hypothèses secondes. Est-ce qu'il a lieu? Oui ou non? Est-ce qu'il est... deuxième possibilité, est-ce qu'il est anthropique? Troisième possibilité, est-ce que s'il y a un réchauffement atmosphérique, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? À chaque fois, c'est une hypothèse différente. Et il faut les analyser chacune. Mais aujourd'hui, cette morale générale a décidé que le réchauffement atmosphérique était... mauvais en soi. C'était un... Donc, je me retrouve, quand je dis ben, il faudrait étudier des trucs cas par cas, quelles sont les solutions, comment on fait, condamné comme quand il y a 50 ans, je disais que le marxisme était une imbécilité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, les mêmes qui veulent m'empêcher de parler aujourd'hui sur le réchauffement atmosphérique, pas de parler, mais d'étudier, de savoir ce qu'il y a, parce que moi je connais rien, mais il y a des gens, je regarde, je lis, ça fait 40 ans que je lis dessus, et je n'ai toujours pas fait une opinion, c'est-à-dire si c'est compliqué. Mais l'idée, c'est quand même de laisser libre le choix de l'hypothèse. La science, c'est que les scientifiques choisissent l'hypothèse, l'étudient, la réfutent ou l'acceptent. C'est ça la science. Mais si la morale te dit « vous n'avez pas le droit d'étudier parce que maintenant on sait qu'il y en a une et on sait que c'est responsable et on sait que c'est mauvais », mais tout ça n'a pas été prouvé. Donc c'est
bah, c'est et pour si mauvais.
C'est pour si mauvais, exactement ce qu'a fait l'Église catholique. Et on est en train de faire aller à cette hypothèse qu'on a fait à Galilée. Et sauf que bon, on peut en parler, mais...
C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque de Galilée, l'Église catholique disait « Il est hors de question qu'on dise que c'est la Terre qui tourne autour. »
Et en fait, c'était pas ça. C'est ce qu'on nous a raconté.
Oui,
c'était
pas
ça. La réalité, c'est que Galilée disait qu'il faisait une hypothèse que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui est vrai, mais que c'était en rond.
Oui.
Et toutes les études que faisait l'Église catholique, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que le pape avait une map monde dans son... dans sa bibliothèque, donc il savait très bien, parce que c'est tard Galilée, hein, il savait très bien que la Terre, tournait. Mais toutes les hypothèses montraient qu'elle ne tournait pas en rond, et qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. En fait, c'est que, je crois que c'est Kepler qui l'a montré, que c'était une ellipse, en fait.
C'est une ellipse.
Voilà, donc le débat, aussi curieux que ça paraît, c'était plutôt sur le rond, alors on n'avait pas encore trouvé l'ellipse. Bon. Mais aujourd'hui, on m'interdit, pour des raisons de morale, de poser ces questions, de les étudier, et on me traite de négationniste.
Alors, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que donc Charles est allé cette semaine à un très intéressant débat chez Thinkerview, qui a duré 3 heures. Et il n'en pouvait plus avec Olivier Delamarche. Et en fait, c'est assez intéressant, parce que moi, j'ai eu le sentiment, je donne mon sentiment, qu'à un moment, donc tu parlais de finances, et c'est comme un peu si on te faisait passer par un tamis. Et là, on te fait, quelque part pour discréditer tout ce que tu avais dit avant, tout à coup, on te parle du rapport...
Et j'utilise les mêmes méthodes, mais là...
Mais c'est la très sainte inquisition. Donc, à partir du moment où Charles Gave, quelque part, n'a pas passé le test du Q-tips de dire « Oui, oui, le réchauffement climatique, grosse malheur la guerre, mettons-nous des sondes sur la tête », et qu'il a osé dire « Écoutez, je ne sais pas si ce réchauffement climatique est de nature... humain ou non, est-ce que c'est bien réchauffement climatique ou pas, on va se poser la question, et il y avait une troisième question, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et surtout, je sais que toutes les décisions qui ont été prises pour lutter contre ce réchauffement climatique sont désastreuses. Et on a pris toutes les mauvaises solutions.
Ou n'ont aucune incidence, comme le fait que l'Allemagne se retrouve à brûler du charbon, veux-tu en voilà. Et nous, on nous explique que si on trie les bouchons de nos bouteilles, tout va aller bien. Je me permets de lever un œil.
Donc on m'a ramené d'un seul coup une morale pour m'empêcher d'aller vers la science.
Non, c'est pour discréditer
ce que j'avais dit avant.
À partir du moment où tu es marqué du sceau de l'infamie, mon cher, et que tu as la fleur de lys sur l'épaule, tout ce que tu aurais pu dire avant, de toute façon, n'est plus si important.
N'est plus si important parce que ça prouve que je suis obtus.
Et donc, c'est
une façon de ramener le discours au niveau religieux, c'est-à-dire si j'ai dit quelque chose qui était...
La très sainte inquisition.
Tu es exactement dans le scénario de l'Inquisition. Et donc, tu es discrédité parce que tu n'acceptes pas le dogme. Eh bien, le dogme en matière scientifique, ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de dogme. Le dogme, c'est un truc de religion, mais il ne peut pas y avoir de dogme. Par exemple, personne ne peut dire que la science ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de vérité éternelle.
Et moi, ce dont j'ai très peur pour revenir donc sur la GPA ou l'euthanasie, c'est qu'en définitive, on arrive à des mouvements très, très lents où les médias tentent d'influer sur cette espèce de morale collective. On rappelle que la morale, il la crée, alors que la morale ne peut être qu'individuelle. Donc il crée une espèce de morale collective qui en plus, n'est rattachée absolument à aucun ordre religieux. Donc il y a une espèce... Et alors, c'est assez intéressant.
Elle est complètement détachée, cette morale collective, de cette espèce de morale dont on pense qu'on a peut-être reçue, qui est innée, qui nous arrive de je ne sais où. Et au contraire, elle en est même l'ennemi.
Et alors, c'est là où c'est assez intéressant, parce que je me demande, quand le monde musulman va rentrer en contact de cette morale moraline...
Mais ils sont,
On l'a vu récemment, quand il a fallu mettre un genou à terre, un joueur de foot pour la Gay Pride, ou je ne sais plus quand on lui demandait de mettre un genou à terre, il a refusé. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va arriver à cette opposition monde musulman, crétinerie LGBT, ça risque de faire des étincelles, parce que pour les gauchistes, ça va être l'opposition de deux de leur monde. Et comment ils vont résoudre ça?
C'est-à-dire... Ils ne peuvent pas, puisque les musulmans ont une très forte morale extérieure qui leur arrive, mais qui est beaucoup plus précise que dans la religion catholique, parce que c'est une orthopraxie, la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, et puis il n'y a pas
comme
à discuter.
Chez les juifs.
Comme chez les juifs, il n'y a pas à discuter. Boum, boum, boum. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette nouvelle morale collective qui sont en opposition frontale avec la morale telle que...
Comme ce dont on parlait au début, comme l'homosexualité.
Ben voilà.
L'islam...
condamne l'homosexualité.
Condamne l'homosexualité. Donc, au bout d'un moment, les histoires, là, on a encore vu cette semaine de trans qui viennent faire des cours de maquillage dans les écoles des petits-enfants et ainsi de suite. Il y a un moment où ça va mal se réconcilier avec le monde musulman.
Ils vont pas être contents, hein. On peut peut-être le faire dans le 7e ou dans le 16e, mais je suis pas sûr qu'on peut aller le faire à Saint-Denis, là, le gars qui va. Non, encore une fois, il faut bien comprendre que la base d'une société vivable, c'est que la loi soit très ferme et très précise et que la morale soit individuelle. Si on a une loi qui devient imprécise et une morale générale qui devient envahissante, tout se pète. C'est-à-dire, ce que disait, aussi curieux que ça paraissait, Jean-Jacques Rousseau, il disait, vous n'imaginez pas la difficulté de vivre dans une société où les hommes sont libres.
Bien sûr.
La liberté, c'est une saloperie incroyable à porter. C'est pas la licence, c'est pas de faire tout ce qui te plaît.
Oui. Alors ça, c'est encore... Et ça, c'est, si tu veux, souvent le problème que j'ai avec les libertariens qui, eux, conçoivent quelque part la liberté comme une sorte de faculté à jouir de tout, tout le temps, sans entrave. Mais par définition, ta jouissance, ta licence... Non, mais va se heurter à celle d'autrui. Si tu l'as fait très pleinement, ma liberté de foutre mon transistor à fond à 3h du matin, par définition, va gonfler ma voisine du dessous et celle du dessus. Donc, c'est une entrave, ma liberté, à quelqu'un d'autre.
Et donc, la seule façon, c'est que tu portes en toi la notion que ton premier travail, c'est de ne pas emmerder les autres.
Voilà.
Mais... Et ça, c'est toute la base du libéralisme. Et pour ça, il faut qu'il y ait une loi très précise, très dure, et qu'on me laisse bien tranquille sur le reste. Mm-hmm. C'est cette espèce de dichotomie qui faisait la force de nos sociétés qui est en train de partir. C'est-à-dire, maintenant, on est en train de condamner les individus au nom d'une morale collective.
Voilà.
Et ce qui est incompréhensible.
Et c'est ce qu'on voit aussi.
Et la morale collective, d'ailleurs, ça en arrive même au point qu'on dit, vous ne comprenez même pas ce qui vous êtes, parce que si vous êtes blanc, vous êtes automatiquement raciste.
Ah bah, bien sûr.
C'est complètement incroyable. Donc, c'est exactement comme de dire, vous êtes juif, donc vous êtes automatiquement rapia, et puis on a eu raison de vous mettre dans des camps de concentration. À partir du moment où on admet une morale collective, on admet une responsabilité collective. Et la responsabilité collective, ça se termine toujours avec des camps de concentration.
Des goulags,
etc. Et Auschwitz, etc. Donc, ils se rendent pas compte de la voie dans laquelle ils sont rentrés.
C'était l'histoire, c'était quoi? C'était en Chine où ils avaient foutu dans les goulags tous les types à lunettes, parce que les types
au Cambodge.
Au Cambodge.
Ils les avaient tués?
Ils les avaient tués. Tous les types à lunettes étaient potentiellement intelligents, parce qu'ils savaient lire.
Ils savaient lire, intellectuels, boum.
Donc voilà.
On les avait tués tous les. C'était la première critère de sélection pour liquider les Cambodgiens. Là, c'était à peu près 50% de la population. Sous les applaudissements de la gauche française. Et là, regardez encore une fois.
Qui ne s'est jamais déjugé à ce jour.
Oui, il y avait un journaliste que j'aimais bien qui s'appelait Jean Lacouture, qui était un type de gauche, qui était bordelais, qui racontait des conneries toute sa vie, mais qui écrivait de façon merveilleuse sur le rugby. Donc ça, on ne va pas lui en vouloir.
Oh, voilà.
Voilà, donc il est pardonné. Parce qu'il écrivait très bien sur le rugby. Mais à part ça, il disait que des bêtises. Et il avait, quand on lui a posé la question, pourquoi avez-vous refusé de prendre en compte le génocide cambodgien alors que vous saviez qu'il avait eu lieu? Il a répondu, parce que le premier qui en ait parlé, c'est le Figaro.
Ah oui.
Donc, on voit bien cette morale collective en œuvre, là. Comme la nouvelle venait de quelqu'un que moralement je condamne.
De droite.
De droite, que moralement je condamne parce qu'il est de droite, whatever that means. Eh bien, je ne pouvais pas en parler moi-même. C'est-à-dire que pour lui, entre reprendre une information du Figaro et condamner à génocide, reprendre une information du Figaro, c'est beaucoup plus grave.
Oui, ça va loin quand même.
Mais c'est ça, c'est le drame de la gauche à l'heure actuelle, c'est celui-là. C'est qu'ils ont complètement perdu le sens des proportions entre condamner à génocide et ne pas en parler parce que c'est le Figaro. Et on le voit par exemple dans tous les discours sur l'identité française. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est un vrai problème que notre identité soit peut-être en train de disparaître. Je comprends qu'il y a des gens qui se agacent. Eh bien, si on en parle, ça veut dire qu'on est du Figaro.
Oui, oui, à partir du moment où tu parles, où tu utilises le terme d'identité, de toute façon, tu
es cuit.
Tu es cuit. Alors, soi-disant, là, la campagne de Zemmour aurait fait bouger les lignes, je ne pense pas. Je pense que si quelque chose, pendant ces élections, ce qu'on a pu voir, c'est que les gens ont terriblement voté suivant leur milieu social. Plus que jamais, les gens disent qu'ils ont voté suivant leurs convictions, c'est pas vrai du tout. Les gens ont voté complètement leur appartenance, c'est-à-dire...
Les anciens du Parti communiste ont voté Le Pen.
Oui, mais ça, c'est parce qu'elle a récupéré tout le vote oui. Structurellement...
De toutes petites gens.
Des petites gens, des ouvriers. Et puis, je pense que ce qui a été mal perçu, ce que les gens n'ont pas compris, c'est la notion d'attachement. Et les gens qui votent Front National ont un fort attachement.
Comme ils l'avaient au Parti communiste.
Comme ils l'avaient au Parti communiste. Et c'est le grand-père de Romain, qui est un jeune avec qui nous travaillons, qui disait moi, je vote, je crois que c'était communiste ou socialiste. Il dit je connais pas le candidat, mais c'est chez nous, c'est ce qu'on fait. Voilà, on vote socialiste ou on vote communiste, c'est tout. Il n'y a même pas à se poser de questions. Les votes sont un vote donc de classe et d'attachement aussi.
Et on a bien vu le vote Macron, c'est.
C'est la bourgeoisie, la
grande bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Le vote, le vote Zemmour, c'était grosso modo ce qui reste du vote chrétien, quoi.
Oui.
Je suis persuadé parmi ceux qui ont voté Zemmour, il devait y en avoir 90% qui allaient à la messe tous les dimanches, quoi, je veux dire, c'était bien évident. Et donc on retrouve comme ça ces choses-là, et aucun d'entre eux n'a réussi à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire justement à parler de morale, de crime, d'histoire. Et pourtant Zemmour a essayé, mais il est parti, à mon avis, sur un truc qui était faux dès le départ, donc ça ne va rien donner. Mais ce sont des vraies questions, mais on ne les traite pas. Ce sont de vraies questions. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui ressemble beaucoup à Orwell, où, dans le fond, ce que disait Orwell, c'est que si vous utilisez des mots que les autres n'utilisent pas dans le novlangue, là, l'espèce de... à ce moment-là, on vous repère tout de suite. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas parler de moi, ce n'est pas un sujet bien intéressant, mais... toutes mes études secondaires, j'ai eu des problèmes. D'abord, j'étais un cancre incroyable. Et puis ensuite, les professeurs me rentraient dedans tout le temps, quoi. J'avais pas bras. Donc, quand j'étais en terminale, j'étais dans un nouveau lycée, à Auch. Et j'ai dit au gars qui était avec moi en classe, vous allez voir, je vais m'asseoir, je vais rester tranquille, je vais pas dire un mot. Et tous les professeurs vont m'engueuler.
Ils voyaient la mauvaise graine.
Mauvaise graine. Mais c'est pas qu'ils voyaient la mauvaise graine, c'est que je devais avoir une attitude. Je sais pas. Donc il doit y avoir des gars comme ça qui sont là et qui pensent pas comme les autres, qui réagissent pas comme les autres. Et à ce moment-là, cette morale collective n'a qu'une envie, c'est de les payer.
Oui.
Je sens quand je passe parfois dans des endroits comme ça où ils sont majoritaires, une haine contre moi qui me surprend, quoi. Et encore beaucoup plus dans les milieux de droite que dans les milieux de gauche.
Oui.
Dans les milieux de droite, je sens une haine contre moi qui me laisse pantois.
On n'est jamais aussi bien flingué que par les siens, et je sais de quoi je parle, Thérèse.
Donc,
j'en ai fait les frais.
T'en as fait les frais, mais toi et moi, si on a cette espèce de capacité à dire...
quand le déconomètre a sauté, le déconomètre a sauté, il faut le dire aussi.
Mais,
on a quand même le droit.
Oui, moi j'avais eu comme note au service militaire, par l'époque on en faisait un, mon officier m'avait mis individu puissant mais fragile paraît décidé à ne faire que ce qui lui plaît. Ce qui était bien vu. Mais cette idée de faire ce qui lui plaît, ce qui est la base de notre civilisation, finalement, il y a des tas de gens qui ne l'acceptent pas.
Oui. C'est écoute, ça. Je pense que c'est un très beau mot de la fin.
Voilà.
On aura fait une un peu plus petite émission, mais pas tellement, sur le droit et la morale,
oui. La
GPA, l'euthanasie.
Il faut un droit dur et une morale individuelle. C'est voilà. Ça que les gens doivent tenir. Quelqu'un qui vous parle d'une morale collective, on sait que c'est un salaud.
Voilà. On ne l'écoute pas. Quand on dit un droit dur, c'est un droit bien écrit, bien légiféré. Ça ne veut pas dire qu'il doit taper sur les gens. Ça doit dire qu'il doit être précis et qu'il doit être non fluctuant. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des modifications juridiques qui changent au fur et à mesure. On doit avoir une loi bien écrite, bien ferme, auquel les gens peuvent s'attacher sans recours et qui soit à une visibilité de temps très long. C'est-à-dire au moins sur 2 générations pour moi, pour pouvoir écrire quelque chose dans le temps.
Voilà,
écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des commentaires en dessous. Récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, les émissions ont été mises en podcast sur Spotify et la semaine dernière sur Deezer également pour ceux qui préfèrent la plateforme française. Donc merci à Raphaël qui nous a fait ça. Et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle émission où on reparlera probablement d'économie. Et j'espère que cette petite digression sur la morale et le droit vous aura plu. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup.